jolie fille ou un peu.
Des objets de méditation extraordinaires qui s'appellent les manches et pierres de rêve.
La religion, c'est différent. Vous pouvez aussi refouler ça, ça c'est un autre problème. D'ailleurs,
c'est l'essence des raccourcis.
Des blocs polis, donc des pierres, des marbres polis.
8 heures passées de 3 minutes sur Aligre FM 93.1. Bonjour à tous, c'est Voix contre Oreille. Après un petit faux départ, on part pour de vrai. Et vous êtes avec Clément et Michel ce matin, comme tous les mercredis, entre 8 et 9. Très bon réveil. Après les chants corses, pas de brebis à l'antenne ce matin, on parle pas d'amour, on parle de démocratie. La démocratie est-elle possible en économie ? Chaque euro dépensé peut-il être considéré comme une manière de voter pour tel ou tel produit, telle ou telle entreprise plutôt que telle autre ? Eh bien, chers auditeurs, si vous boycottez McDo, mais vous vous sentez tout seul et vous avez l'impression que ça ne sert pas à grand-chose, eh bien, cette émission est faite pour vous.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une ré, qu'une pu. Qu'une république bien démocratique.
www.pourunconstituante.fr.
Voilà le thème de notre émission aujourd'hui. La démocratie est-elle possible en économie ? Comment, avec nos euros, influencer une société et des entreprises plus responsables écologiquement, plus responsables socialement ? C'est le thème que tu as choisi, Clément. Bonjour Clément.
Tout à fait. Bonjour à tous.
Alors, aujourd'hui, notre invité, c'est Maxime Néon. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes responsable d'iBoycott en France.
Et ouais, je suis en service civique pour iBoycott sur la région parisienne.
Alors, on va expliquer évidemment ce qu'est iBoycott, à quoi ça sert, quelles sont les causes que ça défend, quelles sont vos campagnes, quelles sont vos victoires, et puis aussi peut-être quelles sont les limites de ce type d'action. Donc Clément, le sommaire de notre émission.
Oui, donc on va commencer par présenter un peu l'asso, ce qu'elle fait, sa réussite, parce que c'est une asso qui fait beaucoup de bruit, qui a réussi à apporter des projets de manière relativement médiatique, et ça a l'air de fonctionner pas mal. Et on parlera ensuite des campagnes donc, qu'elle a effectuées, notamment celle contre Petit Navire. On reviendra un peu sur ces questions de démocratie que ces actions peuvent soulever.
Ok, super. Certaines personnes pensent que agir sur sa manière de consommer, c'est bien, mais finalement c'est une action un peu individuelle et qu'il vaut mieux organiser des luttes collectives. Donc vous, c'est un peu votre pari, c'est de dire on peut choisir ses marques, choisir ses entreprises, mais il vaut mieux le faire collectivement.
Exactement. En fait, l'idée, c'est que nous, sur la plateforme, n'importe qui peut vraiment créer une campagne de boycott envers une grosse multinationale qui a des dérives qui peuvent être environnementales, économiques ou sociales. Et l'idée, en fait, c'est que de leur montrer que là où nous, on est faible économiquement et là où eux sont très forts économiquement, nous, on est très forts démographiquement, et montrer qu'avec l'unité, on pourrait avoir un poids plus important pour les ramener vers un chemin plus éthique. Donc en fait c'est vraiment l'idée d'un boycott bienveillant. C'est pour ça qu'on dit ça à chaque fois. On nous dit souvent avec l'association, le boycott c'est très négatif, le boycott c'est quelque chose de qui attaque vraiment les entreprises, et nous on est vraiment là pour essayer du coup de les faire un petit peu réfléchir sur la manière de comment elles agissent et s'il y aurait pas moyen de pouvoir réguler un peu telle ou telle dérive.
réfléchir ou agir, parce qu'on imagine bien qu'elles ont déjà en tête les conséquences écologiques et économiques de leur action. Et donc là, l'idée, c'est de réussir à faire en sorte que, plutôt que de boycotter de manière individuelle, ce qui, pour une entreprise grande comme McDonald's, comme Petit Navire, n'a franchement pas grand impact, l'idée, c'est donc de se fédérer et d'agir collectivement. Moi, j'aime bien votre slogan qui est « Chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le type de monde que vous voulez ». Donc c'est cette idée à la fois de démocratie, donc à travers ce mode de consommation.
Ouais, exactement.
Donc, iBoycott, peut-être qu'on peut revenir un peu sur la naissance de l'asso. Ça existe depuis combien de temps? Combien de personnes en font partie? À quelle échelle?
Et donc du coup, iBoycott, c'est une asso qui a été créée à Lyon il y a 2 ans de ça, par 2 frères d'origine turque. Et ça a très rapidement pris de l'ampleur. En fait, on a fait une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Et on a récolté 150% de l'objectif initial. Donc ça a réussi à se lancer, ça a suscité un engouement vraiment très fort. Parce qu'en gros, du coup, c'est la première en fait plateforme de boycott qui existe en France et qui arrive comme ça à rassembler les gens et avoir un impact dont on parlera un petit peu après. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une communauté qui est forte d'environ 100 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. C'est pas juste des gens qui mettent un clic sur Facebook ou ce genre de truc. C'est vraiment des gens qui s'engagent du coup à arrêter de consommer telle ou telle marque. Et globalement, du coup, on a 13 antennes en France. Donc, on en a 3 avec, là, on a de la chance d'avoir des services civiques et des gens qui bossent à plein temps dessus. Et sinon, le reste sont uniquement composés de bénévoles. Et on en a également une à Genève et une en Belgique.
Donc, une antenne à Lyon, une à Paris, visiblement, et une troisième.
Une troisième à Montpellier, qui sont les 3 un petit peu les plus vivantes. On en a une à Bordeaux qui marche très bien aussi. Et puis après, on est à Nantes, on est à Marseille. On est à Strasbourg, donc Bruxelles, et j'ai plus toutes les autres en tête, mais un peu. Et en gros, le but, c'est que c'est vraiment. Enfin, nous, on voudrait faire en sorte que le mouvement se propage vraiment le plus rapidement, enfin, de manière exponentielle. Donc, en gros, c'est n'importe qui voudrait pouvoir créer son antenne quelque part dans sa ville en France et qui pense que ça pourrait avoir un impact, qui peut nous contacter. Et nous, on a des supports un petit peu après derrière. Le but, c'est que c'est vraiment. Il n'y a absolument pas de hiérarchie, c'est vraiment chacun peut ensuite s'arranger pour pouvoir créer son petit mouvement et créer, monter son antenne iBoycott où il veut en France chez lui pour pouvoir fédérer un petit peu le mouvement et faire des petites graines un petit peu partout.
Alors ces antennes, qu'est-ce qu'elles font au jour le jour? À quoi ça sert de créer une antenne dans une nouvelle ville, un nouvel endroit?
Du coup, le but de ces antennes est de monter principalement les actions. On a des actions de terrain du coup qui sont organisées. Par exemple, pas plus tard que samedi, on était devant un Auchan pour ce qu'on a la campagne du mois qui est élue chaque mois par l'Alliance des Social Heroes, qui est un nom qui fait pas rigoler. Qui fait peur. On a une vidéo un peu épique d'ailleurs si vous voulez aller voir sur le site qui est assez marrante. Et en gros, c'est vraiment le but est de pouvoir fédérer un gros réseau d'acteurs qui soient assez influents sur le web ou dans les médias, par exemple. Donc ça peut être... on a pas mal de youtubeurs qui interviennent du coup sur donc comme Partager c'est sympa, comme Franck Busset, comme enfin pas mal de personnes qui ont assez de vues sur internet, plus des associations comme Greenpeace, L214, les Amis de la Terre, et également quelques journalistes. On a eu la chance d'avoir Guillaume Meurice, Colin Serrault, Pierre-Emmanuel Barré entre autres. Et donc du coup le but est de pouvoir toutes ces personnes-là élisent chaque mois la campagne du mois, et nous on va avec les antennes, chaque antenne va devant la multinationale en question pour pouvoir essayer de sensibiliser un petit peu le grand public qui n'est pas déjà très visé sur les réseaux, parce que du coup on a les informations sur les réseaux sont très filtrées et le but, enfin, très destiné à ce qu'on a l'habitude de regarder ou d'aimer, etc. Et donc du coup le but est de pouvoir aller chercher un peu le grand consommateur et sensibiliser directement ces personnes-là sur le terrain. Donc on a ça qui va être organisé une fois par mois. Et ensuite on organise des apéros ou des événements un petit peu ponctuels. Donc les apéros, c'est les apéros des héros, on appelle ça. Et donc c'est on se greffe avec une association et on organise un événement commun autour d'un thème en particulier. Donc ça peut être avec les assos que j'ai dit avant, ça peut être on a un événement qui va venir avec Vox sur la démocratie aussi. Et là, après, on se greffe un petit peu à plein d'événements ponctuels. On a les ceux de Datagueule qui viennent présenter leur deuxième film Démocratie jeudi soir dans nos locaux. Donc voilà, c'est un peu des événements à gauche à droite. Ça pourrait être voilà, essayer de pouvoir fédérer un peu dans sa ville un réseau et faire vivre un petit peu l'association de manière non virtuelle, mais humaine.
Alors le mieux, c'est de donner quelques exemples de campagnes, peut-être. Alors vous disiez qu'il y a chaque mois la campagne du mois. Là, en ce moment, c'est laquelle?
Donc nous, on avait eu la campagne contre Auchan. Donc du coup, ce mois-ci qui était... Donc Auchan, la campagne avait été montée contre le magasin pilote d'Auchan City Tourcoing, qui était du coup un magasin, qui était une filiale créée à 100% par Auchan, et qui faisait du coup que en fait il y avait absolument aucune discussion entre, ils avaient testé des nouvelles techniques de management et il y avait absolument aucune discussion possible en fait entre les représentants d'entreprise de cette filiale avec le groupe Auchan en règle générale. Et du coup en fait il y avait eu quelques histoires qui avaient fait beaucoup de bruit, comme par exemple la fille qui avait été licenciée pour 86 centimes et qui avait été accusée de fraude et du coup qui avait été virée, et la fille qui avait fait une fausse couche à la caisse dont on avait beaucoup parlé aussi. Et en gros, le but, nous, ce qu'on voulait montrer avec la campagne de boycott qui a été justement lancée par Franck Busset, qui est le youtubeur qui disait justement, qui demandait à ce qu'il y ait un dialogue dans l'entreprise, qui est justement entre cette filiale d'Auchan City Tourcoing et le groupe Auchan, et également qu'il y ait les mêmes conditions d'alignement de salaire, parce que du coup, c'est vraiment totalement différent. En fait, ce serait totalement notre magasin, ce serait pareil, quoi.
Ça, c'est un grand classique, hein. Filialiser les au sein des entreprises, des différents magasins, différents sous-traitants, producteurs en amont et en aval de la chaîne de production. Ça, c'est un grand classique. Mmh. Et effectivement, cette séparation des salariés au sein d'un même groupe par le biais de la filialisation, c'est très problématique.
Alors donc cette campagne, elle vise à interpeller Auchan pour qu'il change ses pratiques, pour que le groupe change ses pratiques.
Exactement, en fait, c'est ça que je trouve assez intéressant avec iBoycott, c'est qu'il n'y a pas de volonté en fait de tuer le capitalisme et de tuer toutes ces multinationales qui mine de rien emploient plein de gens et font tout n'est pas acheté non plus systématiquement. Donc en fait l'idée est vraiment de pouvoir les montrer que par rapport à cette dérive justement qui va être les conditions de salaire et la discussion entre les salariés, nous on, avec la campagne de boycott, c'est dire je m'engage à arrêter de consommer Auchan tant que vous n'aurez pas amélioré le dialogue. Donc du coup le but est de pouvoir ensuite nous on en offre un droit de réponse en fait à l'entreprise qui va permettre d'entrer, nous en fait on n'est qu'un outil entre les consommateurs et les entreprises, et du coup amener un petit peu le dialogue.
Ouais. Donc ça c'est l'action du mois. En parallèle, on a également des campagnes sur les réseaux sociaux. Ça, donc c'est deux choses distinctes. Mmh. Donc ces campagnes sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait le cœur un peu de l'association, ou de moins en moins, ou c'est de moins en moins le cas. Comment est-ce que ça,
disons que
ça s'agence ces deux éléments.
Ouais, on a été beaucoup. En gros, c'est voilà, comme je disais, le but à Lyon, ils sont beaucoup sur la plateforme justement et sur les réseaux. Pardon, sur la plateforme et sur les réseaux pour gérer un petit peu. Toute la partie informatique, parce que c'est vrai que toute la partie majeure, notre poids est pour l'instant sur les campagnes. Pardon. Et du coup...
Sur les campagnes qui ne sont pas mensuelles, ça c'est les choses différentes, de plus, long terme, ou peut-être au contraire plus épisodiques.
En gros, le truc c'est que les campagnes, n'importe qui peut créer une campagne, en fait. C'est sur le principe même d'iBoycott, c'est que n'importe qui peut créer une campagne. Nous, pendant 10 jours après, elle est incubée via la communauté iBoycott. Donc, c'est-à-dire que nous, encore une fois, genre tout ce qui va être le CA ou quoi n'a rien à voir dans tout ça. C'est vraiment toute la communauté iBoycott qui dit bon, moi j'aurais mis un autre titre un petit peu plus accrocheur, j'aurais changé un petit peu l'image, j'aurais rajouté telle ou telle source que moi j'ai vue. Donc, c'est vraiment faire un truc participatif à 100%. Et ensuite, elle est postée pendant un mois sur notre site. Et elle a un mois, du coup, pour réussir à avoir 1000 boycottants. Suite à quoi elle est propulsée via tous les réseaux, via tous les réseaux pour pouvoir toucher plus de personnes. Et en gros, la personne qui crée la campagne fixe un seuil de boycottant minimum à partir duquel nous on va rentrer en négociation avec l'entreprise.
Ok, donc l'exemple, le cas d'Auchan, là, c'est un exemple de ces campagnes.
Exactement.
De ces campagnes mensuelles. Ok, je comprends. Et donc comment elle s'est forgée cette communauté et comment est-ce qu'elle évolue dans le temps? On a eu un grand boom, j'imagine, au départ, donc en 2016. Aujourd'hui, comment ça évolue? Qui sont les gens qui participent à ces actions?
Aujourd'hui, on a.
C'est vrai qu'on a. Ces actions,
ouais, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de. On a eu un. Ça a suscité vraiment un très gros engouement au début, et parce qu'en fait, c'était un concept totalement nouveau aussi. En fait, le fait de pouvoir boycotter une entreprise massivement et ensuite pouvoir entrer en négociation, en fait, ça a fait flipper les entreprises, quoi. Vraiment, réellement, on a eu la. Parce que du coup, quand ça a été lancé, on a eu pas mal de sur BFM Business, sur RTL, on a eu la chance de pouvoir être pas mal relayé. Et du coup, en fait, le jour là où on a lancé la première campagne, qui était la campagne contre H&M. Justement pour le traitement des salariés et toutes les histoires qu'on lui connaît, on a eu une réponse d'H&M directement le lendemain qui nous a répondu en mode mais qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce qu'on doit répondre, et donc du coup c'est vrai que ça fait un peu de la mauvaise pub, et donc du coup ça forcément l'entreprise nous répond directement. Dans le meilleur des cas, ça c'était au début, et maintenant après c'est vrai que ça s'est un petit peu essoufflé. On a eu pas mal de campagnes parce que du coup l'avantage c'est que du coup ça touche à tous les secteurs que j'ai dit avant, et donc du coup il faut pouvoir, c'est vrai que du coup on est un peu, enfin on a l'avantage de pouvoir avoir l'application qui sort dans pas longtemps, et donc du coup ça va relancer un petit peu pour pouvoir avoir ce que, bah, logiquement comme j'ai dit tout à l'heure, plus on aura un poids démographique et plus ça pourra parler et plus on pourra avoir un impact. Donc pour l'instant, disons qu'il y a eu, comme dans tout lancement, un très gros boom au début, et maintenant ça s'est stabilisé, mais on continue d'avoir chaque jour encore des bonnes dizaines de personnes qui s'inscrivent sur le site, et donc du coup voilà, c'est juste après du bouche à oreille, l'effet boule de neige. Et
mais donc finalement c'est dans l'exemple que vous décrivez, c'est plus le problème sur l'image qu'elles craignent que le problème financier, non?
Ben, on a vraiment on attaque vraiment deux nerfs principaux de l'entreprise, qui va être du coup le nerf économique, mais ça, pour attaquer le nerf économique, il faut qu'on soit très nombreux. Et il faut que les entreprises soient pas non plus énormes, parce que quand on s'attaque à des mastodontes comme Apple ou comme Starbucks, etc., c'est vrai que ça, c'est un nerf, et surtout le nerf de l'image qui, pour moi, est le plus important, parce que du coup, bah, aujourd'hui, avec l'heure de l'internet, là où tout circule à une vitesse folle, bah, une mauvaise image égale une perte de revenus, quoi.
Ouais, c'est intéressant, c'est le consommateur qui reprend un peu du pouvoir, parce que moi, on entend souvent les libéraux parler du consommateur-acteur, donc finalement on considérerait que toute offre est bienvenue, toute offre de produit est bienvenue si elle est forgée pour répondre à une demande. Donc tant qu'il y a une demande des consommateurs, bah, tant mieux, on autorise toute firme à produire l'objet en question. Et donc, à ça, on voudrait opposer, ben non, on souhaiterait que l'État régule peut-être plus par le haut et donc décide que non, demain, il n'y a plus le droit de faire des produits, d'utiliser dans la même mesure des dérivés pétroliers, des choses comme ça. Et donc, entre les deux se place ce que vous faites, donc à savoir un peu une agrégation des consommateurs qui sont perdus dans le monde, donc un consommateur seul qui arrête de consommer McDo, qui arrête de consommer Apple, qui arrête de consommer Total ou peu importe, ou qui arrête d'aller au Louvre. Pourquoi le Louvre? Parce que...
C'est la question que j'allais poser.
Il y a une campagne de 350.org contre les investissements dans les produits pétroliers du Louvre. Donc, ces consommateurs qui seuls, finalement, n'ont absolument aucun impact, c'est tellement marginal pour ces grandes entreprises que, bon, ça... Le consommateur qui ne va plus au Louvre seul ne sert à rien, finalement. Bah, en s'attaquant, d'une part, au nerf économique, donc par ce nombre, et surtout, à mon avis, à leur image, donc à travers la folie des réseaux sociaux qui consiste à, lorsque vous postez un peu vous mettez en évidence la problématique de manière bien organisée, bien joliment agencée, etc., sur Facebook, sur Twitter, bah, ça part à des vitesses folles aujourd'hui. Bah, vous réussissez justement à faire en sorte que le consommateur devienne de nouveau acteur économique et oriente l'offre des entreprises qui sont en face, quoi.
Ouais, exactement ça.
Donc moi, ça me paraît intéressant de ce point de vue-là. À côté de ça, j'ai le sentiment, ou en tout cas, je me demande quel est l'impact réel sur l'entreprise. J'ai l'impression que la capacité que vous allez avoir, c'est de mettre en évidence un point particulier qui sera vraiment très ciblé, très, 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 très fait par rapport à la politique globale de l'entreprise, auquel l'entreprise va avoir capacité justement à répondre en disant « Ah oui, effectivement, zut, on s'était trompé, on n'avait pas pensé à ça, donc oui, petit navire change la manière dont elle pêche. » Et très marginalement, et finalement, je me demande dans quelle mesure cette façon d'agir a effectivement un impact global ou l'échelle de l'impact que ça peut avoir. Est-ce que réellement on change le monde de cette manière, ou est-ce qu'on se dit bon, c'est le maximum qu'on peut faire par notre consommation et c'est déjà bien?
Je pense qu'il y a une... Non, on change pas le monde comme ça, mais le... Disons que je pense que c'est, pour moi, c'est assez important de le faire par rapport à une dérive en particulier, genre comme vous disiez avec Petit Navire. Je trouve que Petit Navire est une campagne qui est vraiment assez forte, parce que ça montre parfaitement le pouvoir citoyen que le consommateur peut avoir via Petit Navire, parce que du coup il y avait eu quelques actions assez folles. Il y avait eu des gens qui renvoyaient on avait eu des photos de gens qui renvoyaient leur boîte de thon Petit Navire, genre vraiment énervés contre l'entreprise. Et du coup il y a des gens qui écrivaient en mode « Je suis une consommatrice régulière de vous depuis maintenant plus de 20 ans et voilà, aujourd'hui je vous renvoie mes boîtes de thon parce que je suis pas d'accord avec la manière de comment vous pêchez ». Il faut savoir que la pêche en DCP de Petit Navire...
Ouais, on peut revenir un peu sur, ouais, sur
coup,
l'histoire.
En gros, c'était le Petit Navire qui pratiquait la pêche en DCP, et en gros la pêche en DCP est une espèce de pêche un peu 2.0, là où on va envoyer des lasers pour sonder le sol marin et pouvoir du coup voir un peu quel sera le sol qui sera le plus à même de pouvoir accueillir le plus de thon pour que nous on puisse pêcher de manière la plus efficace possible. Et en fait le problème, c'est que du coup après ils piègent totalement l'écosystème, Et en fait, du coup, non seulement il y a des thons qui viennent se mettre à l'intérieur, mais on a aussi plein de requins, plein de dauphins et plein d'autres poissons dont ils veulent pas. Et en fait, ces poissons-là, ça les intéresse pas. Du coup, une fois qu'ils sont morts, bah, ils les rejetaient comme ça par dizaines, par centaines directement dans l'océan.
Ça consiste à placer les filets, c'est ça,
des ouais, endroits, ça, exactement, placer des filets.
Bien réfléchi.
C'est et... ça. Ouais. Du coup, avec des techniques un peu avant de laser qui vont un peu, c'est vraiment un truc totalement futuriste. Il y a une petite vidéo de Greenpeace qui explique très bien la chose sur leur site et sur le site, sur la campagne d'ailleurs. Et du coup,
vous mettez ça en avant, les consommateurs réagissent en renvoyant leur boîte de thon, et suite à ça, qu'est-ce qui se passe?
Et du coup, nous, on a eu la petit navire, en gros, nous a envoyé une première réponse qui était, et c'est là que c'est très intéressant, en fait, au niveau du consommateur, c'est qu'il a toujours un rôle à jouer. C'est que nous, on colle telle quelle la réponse, le mail que nous a envoyé l'entreprise, et en fait, le consommateur, sur la plateforme, peut décider de dire à ce moment-là, la réponse me convainc, j'arrête de boycotter, ou ça ne me convainc pas, je crois que c'est du vent, comme bien souvent ils font, on a bien souvent du vent comme ça, et ils disent je continue de boycotter. En fait, du coup, on a eu des personnes qui ont dit non, une majorité de personnes qui ont dit je continue de boycotter, et ce qui est important, c'est de montrer que pendant cette phase-là, on a quasiment 3000 boycottants en plus qui nous ont rejoints. Donc en fait, c'est juste le fait de dire que forcément, discuter, bah, ça fait parler, quoi. Et après, du coup, l'entreprise a revu ses convictions un peu à la hausse. Et on a pendant ce temps-là Greenpeace qui nous a rejoint et qui a fait signer un contrat à petit navire qui les engage à ce que d'ici 2020, je crois que la campagne a un an, d'ici 2020, ils s'engagent à réduire de 2/3 leur pêche en DCP et promouvoir un petit peu les techniques de pêche alternative. Donc c'est quand même pas, enfin oui, c'est pas, ça a pas, petit navire va pas disparaître demain, petit navire va pas arrêter de pêcher du thon, on est désolé pour tous les véganes et ceux qui ne mangent pas de poisson. Mais en fait, bah voilà, c'est, je pense que c'est comment est-ce que nous on peut revoir un petit peu en tant que consommateur, consommateur, comment est-ce qu'on peut réussir à faire fléchir un petit peu les entreprises, quoi.
Je vous propose une petite pause musicale. On parle ce matin de boycott bienveillant sur AligrFM. On se retrouve juste après ça. Voilà, on se retrouve sur Aligre FM 93.1. C'est Al Sarah and the Nuba Stones, un petit groupe de rock nubien pour se réveiller. On est donc avec Clément et avec notre invité, donc Maxime Néon de I Boycott. Et puis on était en train de discuter donc de ces campagnes de boycott bienveillants et avec l'exemple de petits navires et de la pêche au thon. Donc sur la manière d'influencer le petit navire sur une pêche plus responsable. Alors une fois qu'on lance cette campagne, que l'entreprise répond, etc. Vous disiez, Maxime, bon bah faut continuer à suivre, vérifier que c'est pas qu'on se fait pas enfumer, quoi, qu'elle va bien changer ses comportements. Alors dans l'exemple de petit navire, qu'est-ce qui s'est passé?
Et du coup, dans l'exemple de Petit Navire, on a eu la chance d'avoir le soutien de Greenpeace, et Greenpeace leur a signé un contrat conjointement avec iBoycott pour justement montrer, enfin Greenpeace, on leur fait confiance là-dessus, si jamais ça va commencer à sortir un petit peu du rang, vu qu'ils ont toujours des personnes qui sont sur le terrain et très présents aussi sur les réseaux. Ils ont un pouvoir médiatique assez fort qui fait on sait pertinemment que Petit Navire pourra pas se permettre trop un faux écart. Mais et du coup, ouais, non, par rapport à d'autres campagnes et par rapport au suivi, on avait aussi la campagne contre Jouet Club et Oasis.
Ouais, juste avant ça, pardon, je veux pas te couper. Donc Greenpeace, Petit Navire signe un contrat avec vous. Greenpeace vérifie qu'effectivement Petit Navire arrête la pêche des CP. Qu'est-ce qui nous assure qu'à la place, il ne remplace pas cette procédure de pêche par un autre qui serait tout aussi néfaste pour l'environnement, pour les poissons qui se font choper dans les filets?
Ouais, et ben ça effectivement, enfin nous on n'a pas la garantie pour l'instant parce qu'on n'est pas, on n'a pas la compétence, ouais, en tant que simple citoyen de pouvoir aller voir ce qui se passe exactement. Donc nous pour l'instant on n'en sait rien. Après voilà, vu qu'on travaille conjointement avec toutes ces assos par exemple comme pour l'environnement ça pourrait Greenpeace ou les Amis de la Terre etc. Donc du coup qui sont sans cesse aussi informés par rapport à tout ça et qui dénoncent aussi un petit peu de leur côté. Donc on essaie de travailler un petit peu conjointement comme ça pour regarder, essayer de limiter au maximum les dérives. Après c'est pareil, on n'est pas tous, bien souvent dans ce genre d'association, c'est pas des experts qui sont dessus non plus tout le temps, c'est souvent des bénévoles, c'est souvent des gens qui donnent de leur temps comme ça, et
ce qui est très bien, hein.
Ouais, ce qui est super, mais du coup ça nous permet pas de pouvoir nous pencher sur la question comme ça comme des experts pourraient le faire et qui seraient payés par tel ou tel organisme. Et donc du coup nous on peut pas pour l'instant avoir la, on peut réguler les dérives existantes, essayer du moins de les réguler et essayer d'en prévenir quelques-unes, après tant qu'elles sont inconnues et qu'elles sont issus de quelques fourberies, de grosses entreprises comme ça.
C'est là où peut apparaître la limite du consommateur par rapport à la régulation qui viendrait plus du haut, de l'État.
Disons qu'elle doit, cette histoire de notre concept de consommateur doit venir travailler conjointement ensuite, main dans la main, avec l'État, dans le meilleur des cas. Et voir comment, quelle collaboration on peut avoir et jusqu'à quel point ça peut être bénéfique pour tout le monde. Mais nous, c'est vraiment quelque chose qui se veut, ouais, qui est une entité un petit peu distante aussi et qui fait pas non plus du tout le même travail, quoi. On a pas, c'est du lobbyisme, mais une autre sorte de lobbyisme.
Mais donc vous avez besoin, enfin le consommateur, il a besoin d'être informé donc sur les dérives de ces entreprises. Donc c'est pas évident de savoir que Petit Navire pêche le thon de telle ou telle manière. Mmh. Et puis comme vous disiez ensuite de vérifier les pratiques continuent ou pas. Aussi bien donc il y a l'exemple de la pêche au thon, il y a l'exemple de l'évasion fiscale avec McDo, avec Starbucks. Ouais. Donc vous avez besoin de partenaires pour agir en fait.
Et on a besoin de partenaires pour agir, ouais, systématiquement, qu'ils soient des partenaires tous les citoyens déjà et aussi les associations forcément. Une fois qu'on a une asso qui a un fort pouvoir médiatique et qui nous soutient sur une action, bah forcément ça nous donne une visibilité bien plus importante et voilà, comme je disais tout à l'heure, ça nous donne un poids démographique aussi plus important qui est plus à même de pouvoir faire fléchir un petit peu l'entreprise, quoi.
Il y a une volonté de voir le législateur entrer dans la danse finalement sur les questions que vous soulevez ou pas nécessairement?
Ah totalement, oui, il y a une volonté de pouvoir discuter avec
et pouvoir espérer que enfin lui faire ouvrir les yeux sur, même si le législateur sait très bien ce qui se passe, mais le contraindre à réguler ses pratiques de pêche, par exemple, et des choses sur les questions d'évasion fiscale autrement.
Totalement, ouais. Le but est, parce que principalement les campagnes qu'on a aujourd'hui contre, parce que l'évasion fiscale, ce n'est pas prouvé, on ne sait pas si ça existe vraiment, l'évasion fiscale ou non, c'est peut-être un mythe de la population française, qui sait. Mais c'est contre l'optimisation fiscale, nous, principalement, qu'on se bat, avec l'optimisation fiscale que fait Starbucks, que fait McDo, que fait Apple, enfin, qui font pratiquement tous. Et en fait, l'optimisation fiscale qui n'est pas illégale, en fait, dans le pays. Et nous, on est juste là pour pouvoir déjà dénoncer ça, pour pouvoir sensibiliser un petit peu les gens qui ne savent pas. Et pouvoir essayer de montrer à l'entreprise que ce serait un peu le juste retour des choses, que de faire les consommateurs viennent chez eux consommer leurs produits, ce serait un peu le juste retour des choses de pouvoir réinvestir une partie de cet argent dans l'économie française. Et enfin voilà, c'est comme ça que la boucle serait bouclée aussi. Donc c'est plus sensibiliser, ouais, principalement là-dessus.
Ouais. Et j'ai perdu mon.
Alors, en attendant Michel. Que tu retrouves, moi je voulais revenir sur, enfin, poursuivre l'exemple, enfin, revenir sur l'exemple de Starbucks, parce que, et voir un peu les comment vous évitez certains pièges. Bah, alors, par exemple, Starbucks, il y a une campagne contre l'optimisation fiscale, que ça soit légal ou pas, c'est même pas le problème, on sait que c'est immoral.
Immoral, surtout ça.
Voilà. Donc, on veut plus de ça. Ok, on est d'accord, donc on boycotte Starbucks, on est 22 000 je crois, donc c'est déjà, c'est déjà pas mal en France. Et alors, ce qui est positif, c'est que vous avez reçu une réponse de l'entreprise, donc elle n'a pas ignoré l'action, elle a fait une réponse super circonstanciée, détaillée, mais alors ça sent le gros enfumage.
C'est exactement ça, ouais.
La réponse. Puisque...
Ah zut, je ne savais pas.
Alors non, c'est même pas je savais pas, c'est ah ben si nous payons nos impôts, nous avons 1300 il parle pas de salariés mais de partenaires, tous.
Alors,
en
CDI. Toujours un petit navire, hein, sa réponse faisait la même chose, la troisième, enfin dès le premier ou deuxième paragraphe, je sais plus, il y avait cette précision qui était le nombre de salariés que Petit Navire embauche en France.
Ouais, voilà.
Le
donc,
classique travail versus.
Exactement. Ouais, attention, on emploie.
Taxes, pratiques,
donc, oui, nous payons nos impôts, etc., etc.
Ils ont eu des frais très importants aussi au début, il faudrait les excuser. Ça fait 4-5 ans et c'est vrai que Starbucks peine un petit peu quand même. Les pauvres, ils vendent pas forcément assez de café, ça marche pas très bien en France. Ce qui fait qu'ils ont eu un développement très massif. Sans bénéfice, c'est quand même très joli. Je voudrais faire un petit coup de chapeau à Starbucks quand même aussi.
Ouais. Donc ils expliquent voilà qu'ils ont eu des très gros investissements au début et qui font qu'ils n'ont pas été rentables pendant longtemps
Et qu'ils ne le sont toujours pas.
Bon, alors donc la réponse, elle a pas convaincu les. Enfin, elle a quand même convaincu 349 membres de l'action, mais à contre 1500 qui n'étaient pas convaincus.
La réponse est unanime.
Donc du coup, le non l'emporte et on poursuit l'action. C'est ça qui s'est passé.
Exactement. Et on continue. Du coup, on poursuit l'action et donc comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir après une participation citoyenne, un partage, une diffusion encore qui est... Parce que ce qui est assez important dans la campagne de Starbucks, c'est qu'ils ont fait une première réponse donc que vous avez lu en partie, et donc ils parlent un petit peu du sujet. Et après, en fait, il y a tout le reste du paragraphe, les trois quarts, ils nous ont collé vraiment un pavé énorme qu'ils doivent envoyer, je pense, un petit peu à tout le monde. Et en fait, ils ne parlent absolument pas du tout du problème de la campagne en cours. Donc en fait, c'est vraiment juste histoire de noyer le poisson. On vous donne un peu tous les points positifs de tout ce qu'on fait, etc., et on vous met ça comme ça, on vous copie-colle, et puis ça montre un peu qu'on en a pas grand-chose à faire, et qu'on colle ça tel quel, et puis on verra bien comment ça passe, si ça passe tant mieux, si ça casse, ah bon bah on aura un peu plus de temps quoi. Donc du coup voilà, ça a été enfin très logiquement refusé, et ça continue, et je sais pas si on a eu une deuxième réponse là-dessus, ou je crois qu'il y a eu un... On a eu qu'une seule réponse sur cette campagne là-dessus, du coup, ok. Et du coup, bah voilà, et du coup après on attend, et nous, bah c'est un poids qu'on espère avoir aussi comme ça, en montrant que, bah, toutes ces personnes qui sont consommatrices ou non de Starbucks voient qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de réponse depuis tout ce temps-là, donc en fait que l'entreprise s'en fiche totalement de savoir si elle va réinvestir cet argent-là dans l'argent public. Donc on espère que ça puisse avoir aussi un petit poids, et nous on continue de les relancer, hein, systématiquement, on envoie des mails, on les appelle, Et on va développer aussi un concept dans pas longtemps, dont je pourrais vous parler après avec l'application, qui va viser à les faire réagir un petit peu.
Donc là, concrètement, on espère quoi ?
Eh ben, on attend d'avoir une réponse. Nous, on continue d'envoyer des mails de toute façon. Et qu'est-ce que, après, c'est là qu'un peu la limite d'iBoycott se pose pour l'instant. C'est que, forcément, nous, on est un contre-pouvoir citoyen avec les citoyens qui agissent via leur consommation. Et après, du coup, on est là principalement pour sensibiliser. Du coup, on avait eu une consommation qui était faite contre Starbucks, et on voyait un peu deux types. On avait été devant un Starbucks pour voir un peu les gens qui rentraient et qui sortaient, et essayer de leur dire justement, est-ce que vous savez que là où vous achetez chez Starbucks, ça ne paye pas d'impôts en France? Et du coup, on a eu un peu deux types de réponses. On a eu le type des 50% qui rougissait un peu jusqu'aux oreilles en disant, oui, je sais, je suis désolé, mais j'adore les petits cookies et le petit café. Moi, ça me fait plaisir. Et puis le 50% qui ne savait pas, en fait. Donc c'est juste, on a une grosse partie sensibilisation. Et ensuite, nous, on essaye de voir un peu comment est-ce qu'avec le soutien des autres, on peut aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est un peu la limite pour l'instant de ce qu'on a. Aucun système n'est parfait.
Donc l'idée, ça serait qu'il y ait un rapport de force qui soit instauré et que ça nuise suffisamment à leur image pour qu'ils prennent au sérieux.
Exactement. Et pour ça, il faut que ce soit relayé vraiment massivement. Et c'est pour ça que l'avantage, parfois sur ceux qui, comme je disais tout à l'heure, les youtubeurs ou les humoristes sur les radios ou sur Internet, etc., qui ont une grosse visibilité, ça donne un coup de boost directement à une campagne qui est vraiment très important, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez là, c'est de dépasser les convaincus, finalement. Parce que le risque avec ces campagnes, ça peut être finalement juste, qui est déjà bien, mais juste de regrouper les convaincus qui... Donc là, on voit une différence avec l'action politique. L'action politique, lorsque vous regroupez uniquement les convaincus, régulièrement, vous restez suffisamment peu nombreux pour avoir un impact politiquement. Là, par l'action de consommation, lorsque vous regroupez les convaincus, si vous êtes même 20 000, l'entreprise va potentiellement le sentir en fonction de l'entreprise dont on parle, et va avoir peur pour son image, et donc potentiellement va répondre. Mais ce principe de dépasser les convaincus, pour moi, c'est là où est la force de ces actions qui ne sont justement donc possibles que, a priori, que grâce au développement des réseaux sociaux, à mon avis.
Ouais, en grande partie pour l'instant, en grande partie, ouais.
Alors, est-ce que finalement, c'est basé beaucoup sur effectivement sur Internet, on peut tous rejoindre des campagnes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas je fais un peu l'avocat du diable, une dérive à ce niveau-là où finalement on voit des tas d'usines à pétition en tout genre qui se développent et finalement ça donne un peu le tournis, quoi, de voir passer des pétitions sur tout et n'importe quoi tout le temps, sur les mêmes plateforme.
Ouais, ça pourrait être un peu... Après, c'est vrai que du coup, nous, on se différencie un petit peu de la pétition dans le fait de dire que là, c'est plus un engagement, vraiment un engagement citoyen qu'on prend, qui est l'engagement de boycotter et donc d'arrêter de... Et c'est d'ailleurs ce qui fait en sorte que les entreprises réagissent plus à ça qu'aux pétitions. Parce que les pétitions, j'avais vu un super film il y a pas longtemps qui s'appelait Déclic de conscience, justement, et qui montrait un peu les limites de l'engagement citoyen et de la pétition, parce que du coup ils avaient eu une pétition avec plus de quasiment 800 000 personnes, ils avaient remonté la pétition au niveau des députés, au niveau du Sénat, à l'Assemblée là-haut, et ils avaient pas eu, on leur avait dit oui, c'est bien, c'est beau, ils avaient imprimé en plus pour avoir un poids vraiment, ils avaient 700 000 feuilles, après on pourrait se demander quel est le poids écologique possible. Et du coup voilà, ça montrait un petit peu la limite. Et
on
donc
peut
je pense
penser à la pétition de la loi travail aussi qui avait fait un million.
Et contre le TAFTA aussi, on avait 1 500 000. Et du coup en fait dans la constitution, c'est marqué que pour qu'ils puissent traiter le sujet à l'Assemblée et le faire entrer dans les lois, il faut qu'il y ait un minimum de 3 500 000 signatures ou quelque chose comme ça, quoi. C'est une signature, personne n'a jamais vu une pétition comme ça. Donc voilà, enfin c'est un peu la différenciation de ce qui change aussi avec la pétition, et on espère pouvoir jouer un petit peu là-dessus, quoi.
Voilà, donc l'idée, c'est pas juste de rester derrière son écran et de cliquer pour signer une pétition, mais c'est aussi de consommer différemment.
Sur le lancement des campagnes, vous l'avez évoqué, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu dessus. Donc vous nous dites il y a une communauté de 100 000 personnes, c'est ça, et donc chacune personne de cette communauté peut proposer une campagne de boycott.
Exactement.
Ce à quoi l'ensemble de la communauté va répondre par oui, non, améliore ton projet, des choses comme ça.
Exactement.
Est-ce qu'on retrouve parmi, j'imagine que cette communauté elle n'est pas diverse à l'image de la population française. Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on retrouve vraiment régulièrement, qui reviennent souvent parmi ces gens?
On a... Il y a pas mal de thèmes qui reviennent souvent et qui vont être principalement, je dirais, avec les droits du travail. Pardon. Avec les droits du travail, l'écologie. Beaucoup, beaucoup l'écologie. Donc ça va être par exemple sur l'utilisation de l'huile de palme, sur tout plein de problèmes écologiques, trop le fait de produire trop de déchets, un peu tout ça. Donc on a beaucoup, on a une grosse base là-dessus aussi. Et l'économie aussi, quoi. Enfin, très forcément, avec les principes d'optimisation fiscale. Et donc voilà, je dirais que pour l'instant, c'est un peu les trois grands thèmes autour desquels on transite. Et puis et après voilà, il y a des choses un peu sur les qui viennent un peu avec les quelques trucs un peu antispécistes sur les fourrures, sur Hermès, sur un petit peu tout ça. Donc on a, enfin, l'avantage c'est que c'est vraiment, vous pouvez aller voir sur le site, en fait il y a vraiment toutes les catégories qui sont possibles. Et en fait, quand on crée sa campagne, on peut mettre sa campagne dans trois catégories différentes qu'elle recoupe un petit peu. Et du coup voilà, le but est de pouvoir toucher comme ça un petit peu plus de personnes, si ça a un sens, bien entendu.
Alors, on va peut-être faire une deuxième petite pause si elle est calée. Ouais, ok, bah, on y va et on se retrouve juste après pour continuer à parler de iBoycott.org. Cambodian Space Project, c'est dur à dire, du rock cambodgien après du rock égyptien, voilà, sur AligrFM. Donc ce matin, on est avec Clément et Maxime Néon, donc d'iBoycott. On parle des différentes campagnes de boycott bienveillant contre Starbucks, contre Petit Navire. On avait aussi celle de l'exemple de Pinder, dont vous pouvez nous parler, puisque c'est un peu différent, c'est pas une grosse multinationale. on lui reprochait sa manière de traiter les animaux.
Ouais, de la maltraitance animale. Assez, il y avait eu quelques photos qui avaient fait le tour du web, qui n'étaient pas un peu inacceptables. Et du coup, on a découvert que les magasins Jouets Club et la marque Oasis était partenaire en fait de ces cirques Pinder. Et donc nous, l'idée était de dire, il y a des gens qui ont créé des campagnes de boycott en disant bah voilà, arrêtez juste tout simplement votre partenariat avec les cirques Pinder. Et en fait, ça a été assez marrant, parce qu'au bout de 5000 personnes, en fait au bout de 5000 boycottants, directement l'entreprise nous a répondu, enfin Oasis en tout cas nous a répondu, je crois que crois que Jouer Club, c'était quasiment pareil. Avec très très peu de boycottants, 4000, 5000 personnes ont commencé à nous répondre en nous disant « Ok, très bien, bah, on arrête notre partenariat avec les cirques pleins d'air ». Et en fait, du coup, on avait eu la grosse question après de savoir comment est-ce que des gens nous avaient posé la question « Quelle garantie vous avez que ces entreprises-là ont bien arrêté leur partenariat ?» Et donc forcément, il y a des histoires de logos sur les sites et tout, mais ça ne veut pas dire forcément toujours grand-chose. Et donc du coup, on avait une des associations qui avait monté la campagne contre Pain d'air était une association qui s'appelait, non, soutenue par l'association ACTA, qui est une association de protection des animaux. Et en fait, une des filles d'ACTA avait envoyé un mail à l'entreprise en disant « Voilà, je suis une de vos plus grosses fans depuis toute petite, j'adore ce que vous faites et tout, mais j'ai vu que malheureusement, il n'y a pas longtemps, vous aviez perdu un soutien. » Et effectivement, on a eu le retour en mode oui, on a un retour de pain d'air en interne. Du coup, oui, on a effectivement perdu un soutien, mais bon, nous continuons à faire du cirque. Merci de votre fidélité, etc., etc. Enfin, on a plusieurs petites techniques un peu comme ça pour essayer de savoir si oui ou non. Et c'est toujours essayer de penser un peu ingénieux et voir comment est-ce qu'on peut faire, quoi.
Et donc à l'arrivée, donc comment ça s'est terminé cette campagne
Ça s'est soldé par une victoire, juste simplement. Donc on a eu vraiment le retour d'Oasis qui nous disait très bien, on arrête le partenariat. Et les gens ont dit moi très bien, bah la réponse me convainc. En même temps, elle est très claire et très rapide. On a eu un petit retour vraiment.
Des victoires. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de belles victoires?
On a une autre victoire en plus qui est vraiment, qui est pour moi une des plus belles. Et ce qui est cool, c'est qu'on a des victoires qui touchent un petit peu à tout pour l'instant. On a une victoire avec Philips, qui a en fait les ouvriers de Philips du jour au lendemain sont rentrés de vacances, je crois, et on leur a dit désolé les gars, mais on délocalise, donc vous perdez votre emploi en fait. Et ils allaient partir avec des conditions de salaire absolument misérables. Et en fait, du coup, ça a été repris du coup par la communauté iBoycott. Et on a eu un partage, une diffusion vraiment massive sur un très court temps. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Philips, qui a dit tout simplement, bon, bah voilà, on n'a pas eu de retour directement de Philips, mais on a eu plein de retours des ouvriers de Philips. On en a mis une sur la campagne, des retours. Qui était merci à iBoycott parce que sans vous on n'aurait pas pu partir avec un chèque qui nous permettait de pouvoir voir un petit peu plus loin. Et du coup, enfin voilà, c'est que le phénomène du boycott a quand même réussi, boycott bienveillant encore une fois, a réussi à pouvoir améliorer un petit peu les choses, quoi. Donc c'est
pourquoi qualifier ce boycott de bienveillant, parce qu'on pourrait, après tout, on se dit qu'il est légitime. C'est ce financement de cirque qui ne traite pas convenablement leur... Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure un cirque peut traiter convenablement ses animaux, mais ces financements de cirque qui ne traitent absolument pas convenablement leurs animaux, ces manières de pêcher, ces manières de traiter les ouvriers, cette façon d'agir de manière généralisée par la filialisation des lieux de production ou de vente. Bon, face à ça, pourquoi est-ce que, en tant que citoyen, pour une fois qui avons un impact par notre consommation, qui pouvons obtenir des réponses de la part de l'entreprise, des grandes multinationales, du capitalisme, pourquoi est-ce qu'on devrait considérer que ce boycott, nommer ce boycott, qualifier ce boycott de bienveillant?
Parce que nous, on se veut pas dans une démarche de confrontation avec l'entreprise. On veut, ça arrive à tout le monde de faire des petites erreurs et tout, et donc on veut juste essayer de faire en sorte que ça. Enfin, c'est l'idée. C'est bien sûr ironique, mais c'est vraiment l'idée de comment est-ce que nous on pourrait accompagner les entreprises dans une démarche plus éthique. En fait, on n'est pas là pour pouvoir taper sur les doigts des gens. On est juste. Donc c'est vraiment cette idée de bienveillance. Et parce que du coup, bah, comme vous disiez avec les salariés, etc. Nous, on est là pour faire en sorte qu'il y ait ensuite un meilleur dialogue, il y a des meilleures conditions de travail pour les salariés, pareil pour les océans, pareil pour les poissons. C'est vraiment dans cette dimension de pouvoir améliorer les choses en allant de l'avant, et non en étant sans cesse dans la répression.
Il y a une part de com' là-dedans, non? Moi, je me demande si l'un des objectifs de présenter les choses comme ça, ce qui est... Bon, oui, l'un des objectifs de présenter les choses comme ça, c'est pas également d'attirer des gens qui ne voudraient pas ou qui voudraient limiter la mise en évidence d'oppositions fortes dans le monde capitaliste. Le monde capitaliste, c'est pas un monde gentil, et bah, parfois, ou en ce moment, en tout cas, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a un peu, on a un peu tendance à se voiler la face par rapport à ça. Et peut-être que c'est une manière également, donc, de qualifier cette histoire de boycott bienveillant, de considérer qu'on ne veut pas tuer le capitalisme, mais l'accompagner vers un meilleur type de production, des actions plus éthiques. C'est également peut-être, je sais pas, je demande, une manière de ne pas se mettre à dos certaines populations qui seraient en mesure de se joindre à l'action.
Il y a un peu de cette idée, forcément, il y a une histoire de... Nous, on voudrait fédérer un gros réseau, comme je disais tout à l'heure, et donc ça va être essayer d'aller chercher un petit peu les personnes qui sortent un petit peu du cadre alternatif aussi, et pouvoir aller chercher les personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées de base. Je pense que tout le monde, via les actions qu'on a, pourrait réussir à être touché, être sensibilisé par une action en particulier ou plusieurs. Donc oui, il y a une partie forcément un petit peu de communication pour essayer d'aller chercher ces gens-là. Après, le capitalisme est ce qu'il est, et aujourd'hui, je pense que si le capitalisme disparaissait du jour au lendemain, on serait incapable de vivre dans le monde qui le laisserait, quoi. Donc c'est un peu l'idée d'accompagner le capitalisme vers une démarche plus éthique, parce que pour l'instant, c'est le système qu'on a, c'est le modèle dans lequel on vit, et si au moins on fait pas déjà l'effort de pouvoir l'amener vers un temps soit peu plus respectueux, et ben on va pas pouvoir s'en sortir comme ça. Donc c'est juste essayer de faire les choses un petit peu petit à petit aussi, quoi.
Vous évoquiez tout à l'heure en off une alternative donc au boycott, qui est le bycott, donc une alternative ou quelque chose qui est complémentaire. Est-ce que vous pouvez présenter un peu ça? Donc c'est plutôt que de ne plus consommer un produit, c'est au contraire mettre en avant un autre produit plus éthique.
Exactement ça. En gros, c'est qu'on est en train de développer du coup une branche qui s'appelle le bycott, qui est développée conjointement au boycott.
Buy acheter
du coup. C'est l'achat responsable en fait, c'est plus ça. Donc en fait, le boycott, ça va être un peu aller taper sur les doigts des grosses multinationales, et le bycott va être plus les alternatives qui vont être proposées à ces campagnes de boycott. Donc en fait, quand vous allez sur le site, vous choisissez de boycotter une campagne, et ensuite on vous propose de découvrir les alternatives. Et en fait, nous, l'idée, c'est de créer un label qui soit un label de boycott, justement 100% citoyen, là où tous les consommateurs, toutes les personnes présentes sur la plateforme pourraient elles aussi décider de choisir des alternatives qui soient plus éthiques, dans lesquelles les conditions sociales de travail sont plus responsables, dans lesquelles, enfin voilà, c'est vraiment donc ça peut être plein d'alternatives possibles. Ça peut être donc des entreprises plus responsables, ça peut être des petites, il y a des gens qui mettent des petites recettes à faire soi-même, il y a des gens qui proposent, en fait il y a vraiment toutes sortes d'alternatives qui sont proposées sur un modèle purement démocratique de un clic une voix, et les alternatives les plus plébiscitées sont remontées tout en haut de la chaîne, et c'est ainsi que du coup on peut voir toutes les alternatives proposées par les personnes sur la plateforme.
Donc ça serait par exemple, si on reprend le ton petit navire, de dire bon, on arrête d'acheter celui-là tant que il pêche de cette manière-là, mais on recommande de l'emplacer par telle ou telle marque qui est plus responsable.
C'est ça, ouais. En gros, les marques, c'est des marques du coup.
Parce que là, ça pourrait faire encore plus mal, quoi, si du coup on met en avant un concurrent responsable.
Après, on se dit du coup que les gens qui sont sur notre plateforme sont des gens qui sont sensibilisés aussi. Et donc du coup, logiquement, les alternatives qui seront plébiscitées aussi sont des alternatives qui se veulent plus responsables. C'est des gens vraiment qui ont la volonté, enfin si vous allez voir un petit peu sur le site, c'est vraiment des gens qui ont la volonté de mieux manger, de mieux faire les choses, et de pouvoir aussi limiter au maximum les achats en supermarché et dans toutes les entreprises un petit peu capitalistes. Donc du coup, c'est un peu l'idée aussi de avec cet aspect communautaire, de pouvoir s'en sortir un petit peu mieux au jour le jour, quoi.
Un risque de ces campagnes, et ça transparaît dans ce que vous dites là, c'est que l'acheteur il est limité par son budget. Donc lorsqu'on boycotte donc là c'est pas le cas de Petit Navire qui est une marque, mais parfois je pense à Intermarché par exemple, lorsqu'on boycotte le type de pêche qu'il réalise, à côté de ça, potentiellement ce sont des produits qui sont vendus très peu cher ou le moins cher du marché, et donc ça peut se retrouver sur les bourses des acheteurs. C'est quelque chose dont vous tenez compte, ou de toute façon après tout on veut une évolution, donc peu importe?
Et non, pas du tout. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement ce week-end on avait donc la consommation contre Auchan, l'action de terrain comme je vous avais dit. Et en gros, c'est ce qui sortait avec tout le monde, vu que moi, c'était la première action de terrain que je faisais ici sur Paris. Et du coup, c'est ce qui sortait avec tout le monde. C'était je viens chez Auchan parce qu'il y a la proximité, parce qu'il y a le prix qui est très peu cher, parce que tout est centralisé autour d'un même, du coup, j'ai pas à faire 10 magasins sur mes deux jours de week-end. Et en fait, du coup, nous, on avait sorti un petit peu les alternatives qui avaient été proposées sur le site. Et donc, entre autres, il y avait une des alternatives qui s'appelle Près de chez nous, qui est un super site près de chez nous.fr, qui référence un petit peu donc tout ce qui va être les AMAP, toutes les petites épiceries de quartier, tout qui sont plus responsables, les petits artisans, etc., etc. Donc en fait, l'idée n'est pas demain de totalement arrêter d'acheter dans les supermarchés, principalement d'arrêter d'acheter chez Auchan pour telle ou telle raison que j'avais citée pendant l'action terrain. Et donc, en fait, ça va être juste de pouvoir limiter au maximum ces achats en montrant qu'il existe aussi d'autres manières de consommer qui sont pas forcément beaucoup plus chères. Ça va être, par exemple, les AMAP. Faut juste accepter de manger de saison. Et en acceptant de manger de saison, on comprend un petit peu mieux comment fonctionne aussi le cycle de la terre, de la biodiversité, etc. Donc, en fait, c'est juste essayer de pouvoir refaire penser les gens un petit peu par rapport à leur mode de consommation, sans pour autant à aucun moment leur taper sur les doigts en mode, vous mangez chez Auchan, vous êtes mauvais, quoi. C'est vraiment pas du tout l'idée. L'idée, c'est de pouvoir montrer qu'il existe d'autres manières et que même si on peut pas le faire à 100%, on peut limiter un petit peu au maximum.
Et donc vous, Maxime, à titre perso, vous êtes en service civique actuellement
sur Paris,
sur Paris, et vous travaillez pour iBoycott. J'imagine donc que vous êtes engagé là-dedans parce que ça faisait résonance avec vos convictions personnelles.
Ouais, totalement. Ouais, c'était. C'est vrai que c'est ce qu'ils disent sur le site aussi, quoi. C'est boycotter seul, c'est bien, mais quand on boycotte seul, on se sent très vite limité aussi dans, très bien, je le fais, mais si j'ai 10 personnes autour de moi, moi j'ai arrêté de manger de la viande au début, et je me dis très bien, j'arrête de manger de la viande, mais je mange à table avec, je suis le seul à pas manger de viande, ça a peut-être un impact assez limite, donc voilà, c'est juste un peu le cliché du.
Mais. Boycotter ouais, McDo tout seul.
Boycotter McDo tout seul, alors qu'on a tous nos amis qui viennent à côté, et on est avec un groupe de 10 amis qui, une après-midi, vont tous aller manger McDo, donc voilà, donc c'est, moi ça rejoignait clairement mes convictions de pouvoir dire qu'on pourrait réussir à faire une unité, qui pourrait réussir à avoir un poids auprès des entreprises. Donc ouais, moi ça rejoignait totalement mes convictions et c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, je crois en ce que je fais, donc je le fais bien, je pense.
Avec une volonté de ne pas montrer du doigt les gens qui vont effectivement chez McDo et plutôt d'être dans une démarche d'apport d'informations, de dire McDo délocalise tant, paye moins d'1% de ses impôts en France, etc. etc.
Exactement.
Et qui est tout autre que l'action individuelle qui pourrait au contraire être se poser un peu comme victimisatrice
et montrer du doigt
l'autre, quoi.
Ouais, complètement. Mais néanmoins, ça doit être dur de pas tomber dans le fait de donner des leçons, typiquement dans cet exemple-là. Ouais. Vous mangez McDo, c'est pas bien.
Je pense qu'en rentrant un peu dans le monde militant au début et on devient très vite très énervé un petit peu contre tout et on n'arrive pas forcément à canaliser un peu cette haine qu'on a en nous et en fait du coup dès qu'on se confronte à des personnes qui sortent un petit peu de notre cercle et qui ont d'autres idées que nous, on a tendance à directement être dans l'affront alors qu'en fait c'est quand vous êtes dans l'affront avec une personne, cette personne-là vous criez vos arguments, elle vous crie ses arguments et on sort de là, personne n'a rien appris de l'autre. Donc en fait c'est un peu voilà, ça rejoint un peu le côté bienveillant de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment voilà la sensibilisation bienveillante pour pouvoir informer avant tout, quoi. Et après les gens se font leur propre libre arbitre et chacun fait ce qu'il veut, quoi.
Une dernière chose peut-être, vous nous avez parlé d'une appli qui sort bientôt.
Ouais.
2-3 mots là-dessus peut-être pour conclure.
On a l'appli qui sort, du coup on sort la version bêta, là en début juin, donc c'est-à-dire dans quelques jours, dans une dizaine de jours, et on sort la version finale en septembre. Donc en fait le but c'est on a vu récemment une appli qui s'appelait Yuka qui pouvait en fait scanner les codes barres des produits et nous sortir un peu toutes les dimensions nutritives avec les additifs, les sucres, voir si un produit est bon gustativement parlant et pour le corps en fait. Et donc nous l'idée serait de juste pour dire d'ailleurs Yuka tire toutes ces informations d'une base de données libre qui s'appelle Open Food Facts sans pour autant vraiment il le précise à chaque fois en tout petit à la fin. Et c'est pas du vol de données, mais le juste retour envers Open Food Facts, c'est pas toujours.
Une base de données libre créée par qui?
Créée par Open Food Facts.
Donc eux, ils l'utilisent ou le. Non, en gros,
Open Food Facts crée la base de données, okay. Et eux, en fait, prennent toutes les informations, et okay. ils le stipulent à chaque fois en tout petit, mais Yuka est une application qui a explosé, alors que Open Food Facts est resté toujours à la même, et donc du coup, eux enrichissent maintenant leur base de données, ouais. Et ils font pas toujours l'effort de. Enfin bref, peu importe. Du coup, nous, on utiliserait.
Tout producteur doit renseigner ses codes barres auprès de quelqu'un.
Je sais pas comment est-ce. Non, je crois que c'est vraiment de la. Je sais pas comment est-ce qu'ils font leur. En fait, eux, ils sortent un Nutri-Score, ouais. Qui est du coup un ABCD, ouais. Eux, comme on voit un peu sur les machines à laver, etc., ou ce genre de. Et je sais pas comment est-ce qu'ils sortent leur. Je crois qu'ils font leur travail de recherche eux-mêmes, avec les informations qui sont sur les produits, etc., ouais. Et peut-être qu'ils ont une communication aussi de. Ouais. Et donc, nous, l'idée serait de pouvoir, quand on scanne le produit, pouvoir sortir le Nutri-Score, donc toujours avec les additifs, etc., et faire un peu un digicode de l'éthique. Donc en fait, en scannant le produit, on pourrait savoir, souvent on a bien du mal à à raccrocher un petit peu le quelle marque appartient à quel groupe, etc. Donc on a l'impression en fait de boycotter un groupe alors qu'on achète un produit qui vient de ce groupe-là sans le savoir. Et donc nous, l'idée serait de pouvoir, en scannant, on est en train de créer un algorithme et une matrice avec les arbres et les marques et les groupes, et pouvoir savoir directement quel groupe appartient à quelle marque. Et donc si j'achète ce produit, est-ce que je vais bénéficier à telle multinationale. Et donc voilà, ce serait d'un peu faire le scan de l'éthique, entre autres, et faire, comme on disait tout à l'heure, les par rapport au droit de réponse qu'on offre aux entreprises est parfois un petit peu dans le mou, et on n'a pas trop de réponses, faire des fast action. Du coup, ça pourrait être envoyer un mail type ou un numéro de téléphone aux gens qui sont inscrits sur l'appli, et du coup, ces personnes-là peuvent faire un peu du harcèlement bienveillant. Et du coup, qui serait dans, de pouvoir saturer un petit peu les boîtes mail et les répondeurs pour avoir une réponse, Enfin, il y aurait plein de petites fonctionnalités comme ça qui seront mises sur l'application iBoycott qui sera disponible d'ici une dizaine de jours.
Voilà, bah ça va être l'heure de se quitter. Merci beaucoup Maxime Néon pour tout ça.
Merci
donc
à vous.
On va évidemment aller voir le site iBoycott.org et puis on peut participer aux campagnes, même lancer sa propre campagne. Voilà.
Installer l'appli à venir.
Merci Clément.
Merci
petit jingle pour une constituante pour se quitter.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr